tout le monde il est beau, et le progrès nous sourit.
La thématique de cette nouvelle émission, intitulée « Du siècle des Lumières à celui de l'aveuglement », s'articule autour de la lecture presque intégrale d'un numéro de Manière de voir, revue bimestrielle publiée par Le Monde diplomatique. Ce numéro, intitulé « Le progrès en procès », propose une vision large de la notion de progrès, passant en revue divers aspects, positifs ou négatifs, de l'évolution humaine en termes de progrès. Cette émission, relativement longue, propose ainsi des lectures d'articles qui, s'enchaînant en diverses rubriques, offre des aspects critiques dont chaque article porte une réflexion spécifique. Cette thématique ne fait l'objet d'aucun commentaire de la rédaction et progresse ainsi au fil de la lecture du numéro.
À la suite de la lecture et en illustration de la période 1910-1920, vous entendrez de Maurice Ravel le concerto pour la main gauche. La solidarité n'est pas la philanthropie, par Alain Supiot. L'organisation d'un régime de solidarité est l'expression même de la reconnaissance de l'égale dignité des êtres humains. Chacun doit y contribuer selon ses capacités et en bénéficier selon ses besoins. La contourner, la dénaturer, la saper, comme entreprend de le faire la Cour de justice européenne, c'est régresser violemment vers un monde divisé entre ceux qui veulent bien donner et les autres.
Bien qu'elle doive l'essentiel de sa fortune à la pensée sociologique et politique, la notion de solidarité a une origine juridique, qui s'est, à la fin du XIXe siècle, dotée d'un sens nouveau, celui d'organisation collective permettant de faire face aux risques liés au machinisme industriel, et de faire peser sur ceux qui les créent une responsabilité objective, indépendante de toute faute. Ont ainsi été institués des régimes de solidarité que Jean-Jacques Dupérou a justement décrits comme des pots communs, où l'on cotise selon ses ressources et où l'on puise selon ses besoins. Parce qu'elle ne se laisse jamais dissoudre dans un pur calcul d'intérêt, la solidarité est un facteur de résistance, pour le meilleur et pour le pire, à l'empire du marché. Lui donner force juridique permet de limiter l'extension de la compétition économique à tous les domaines de la vie. C'est sur le plan national que la solidarité a acquis la plus grande portée. Le Code de la Sécurité sociale, 1945, affirme que l'organisation de la sécurité sociale est fondée sur le principe de solidarité nationale. À ce principe correspond une citoyenneté sociale distincte de la citoyenneté politique qui repose sur trois piliers : la sécurité sociale, les services publics et les libertés collectives garanties par le droit du travail. Liberté syndicale, négociation collective et droit de grève. Cette citoyenneté sociale, qui ne procède pas d'un droit du sang ou du sol, unit tous ceux qui contribuent à la solidarité nationale par leurs impôts et cotisations et bénéficient de celle-ci en tant qu'assurés sociaux et usagers des services publics. La solidarité nationale n'est pas exclusive. Elle admet en son sein l'expression de solidarité plus étroite qu'on peut qualifier de solidarité civile, fondée sur le volontariat et gérée par des organismes à but non lucratif, comme les associations, les syndicats ou les mutuelles, sans oublier les solidarités familiales. Toutes s'exercent sous l'égide de la solidarité nationale qui les coordonne et qu'elles prolongent et soutiennent. Les liens entre ces cercles de solidarité sont multiples. On ne peut donc en modifier un sans affecter tous les autres. Aucun système de sécurité sociale ne résisterait longtemps, par exemple, à une disparition des solidarités familiales. Il suffit pour le comprendre de convertir en heures de salaire le travail invisible que représentent les soins prodigués dans ce contexte aux personnes malades ou âgés.
Parce qu'elle ne se laisse jamais dissoudre dans un pur calcul d'intérêt, la solidarité est un facteur de résistance à l'emprise libérale.
Politique du salami. Ainsi définie, la solidarité se distingue aussi bien de l'assurance que de la charité. À la différence de l'assurance privée qui s'appuie sur un calcul actuariel des risques par une méthode statistique, un régime de solidarité repose sur l'appartenance à une communauté, qu'elle soit nationale, professionnelle ou familiale. Les membres de cette communauté qui sont à un moment donné les plus fortunés ou les moins exposés aux risques contribuent davantage que les moins fortunés, mais tous ont les mêmes droits. À la différence de la charité ou de son avatar contemporain, le care, la solidarité ne divise donc pas le monde entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. Tous doivent contribuer au régime selon leurs capacités et tous ont le droit d'en bénéficier selon leurs besoins. Expression de l'égale dignité des êtres humains, l'organisation de la solidarité est un frein à l'extension de la logique marchande à toutes les activités humaines. C'est pourquoi elle est depuis plus de 30 ans la cible privilégiée des politiques néolibérales. L'érosion des solidarités nationales est la manifestation la plus visible de cette remise en cause. L'attaque frontale en ce qui concerne les services publics a été moins brutale dans le cas de la sécurité sociale, même si, dès 1994, la Banque mondiale avait clairement fixé au système de retraite un nouveau cap. Convertir les cotisations en valeurs mobilières abondant les marchés financiers. En Europe, où l'attachement des populations à la sécurité sociale est fort, la réalisation de ce programme a suivi une voie indirecte. Plutôt que de s'en prendre directement à ces régimes, on a sapé leur base financière en rompant le lien entre le devoir d'y contribuer et le droit d'en bénéficier. Et l'on a pratiqué ce que le conseiller d'État Didier Tabuteau appelle une politique du salami qui consiste à découper en fines tranches l'assurance maladie obligatoire pour permettre son absorption progressive et tolérée par les organismes de protection complémentaire. Cette rupture est particulièrement nette au niveau de l'Union européenne. C'est là, en effet, que la solidarité a pour la première fois été reconnue comme un principe général du droit, d'abord en 1993 par la Cour de justice européenne, puis en 2000 par la Charte européenne des droits fondamentaux. Mais depuis près de 20 ans, la Cour de justice envisage les législations sociales et fiscales des États membres comme des produits en concurrence sur un marché européen des normes. Elle autorise les grandes entreprises à choisir la plus économique et à se soustraire aux devoirs inhérents au principe de solidarité nationale. Les directives européennes, à l'exemple de celles régissant le détachement des travailleurs, vont dans ce sens. Dans le même temps, la Cour de justice invoque la libre circulation pour étendre le cercle des bénéficiaires de la solidarité nationale à des personnes qui ne participent pas à son financement. Selon elle, en effet, la citoyenneté européenne impose une certaine solidarité financière des ressortissants de l'État d'accueil avec ceux des autres États membres. On applaudirait volontiers si la citoyenneté européenne était une véritable citoyenneté sociale. Autrement dit, si, au lieu de se livrer à une concurrence fiscale, les États membres édifiaient ensemble des régimes de solidarité à l'échelle européenne. Mais en encourageant la fuite des cotisants et en imposant la prise en charge des non-cotisants, le droit européen brise le lien entre droit et devoir de solidarité. Il prépare un monde où ne subsisteront plus que l'assurance et l'assistance, le marché et la charité.
Le droit européen prépare un monde où ne subsisteront plus que l'assurance, l'assistance et la charité dans le cadre du marché généralisé.
Menace sur les libertés collectives. Les solidarités civiles, qui concernent principalement le droit du travail, liberté syndicale et droit de grève, ainsi que le domaine de la protection sociale complémentaire, mutuelles et institutions paritaires à but non lucratif, sont soumises au même travail de sape. Depuis 2007, la Cour de justice de l'Union s'emploie à restreindre systématiquement les libertés collectives des salariés. Elle leur reconnaît certes une valeur juridique, mais inférieure à celle des libertés économiques des entreprises. Ainsi, les organisations syndicales ne doivent en principe rien faire qui serait susceptible de rendre moins attrayant, voire plus difficile, le recours à des délocalisations, à des pavillons de complaisance ou à une prestation internationale de main-d'œuvre permettant d'échapper aux cotisations sociales du pays d'accueil. Cette jurisprudence qui met en cause le droit de grève a suscité de nombreuses critiques, dont celle du comité d'experts de l'Organisation internationale du travail. Le système de supervision des normes de l'OIT s'est trouvé plongé dans une crise sans précédent, les représentants des employeurs s'opposant à toute forme de reconnaissance internationale du droit de grève. Cette entreprise de déconstruction s'exerce également sur le plan national, comme le montre l'évolution des prestations familiales en France. Avec le succès démographique que l'on sait, il avait été décidé après-guerre de faire jouer la solidarité nationale au profit de tous les ménages ayant des enfants à charge, quel que soit leur niveau de revenu. En reniant ou supprimant ces avantages pour les classes moyennes, les réformes menées ces dernières années nous ramènent à un système d'assistance aux pauvres. Quant à la protection sociale complémentaire, c'est le Conseil constitutionnel qui a décidé d'en chasser le principe de solidarité. La loi de sécurisation de l'emploi, qui a généralisé en 2013 les complémentaires santé, entendait autoriser les partenaires sociaux à établir un haut degré de solidarité à l'échelle des branches professionnelles en désignant un organisme unique pour assurer cette protection. La validité de ces clauses de désignation avait été reconnue en 2011 par la Cour de justice de l'Union. Le Conseil constitutionnel les a tout de même déclarées contraires à la liberté d'entreprendre et à la liberté contractuelle dans une décision qui réalise le tour de force de ne piper mot de solidarité. Décision désastreuse selon le représentant de l'Union professionnelle artisanale, M. Patrick Liebus, qui a souligné la situation de vulnérabilité des petites entreprises livrées aux démarches et pressions de toute nature que ne manquera pas d'exercer sur elles le secteur de l'assurance.
Cette entreprise de déconstruction s'exerce également sur le plan national, comme le montre l'évolution des prestations familiales en France.
Une question d'avenir. Dans les pays émergents, en revanche, l'institution de mécanismes de solidarité n'est pas perçue comme un obstacle au développement, mais comme l'une de ses conditions les plus urgentes. Ce qui a donné lieu à des initiatives remarquables, comme le programme Bourse familiale au Brésil ou la loi nationale sur la garantie de l'emploi rural en Inde. Ces initiatives ne sont pas exemptes de défauts, mais témoigne de ce que l'organisation de la solidarité est une question d'avenir qui se pose en toute société et non un monument historique qu'on pourrait raser ou conserver en l'état.
Thank you.